France Inter, le 18-20.
C'est l'heure du téléphone sonne. Emmanuel Macron a annoncé la semaine dernière, lors de sa conférence de presse, son souhait de confier aux caisses d'allocations familiales le recouvrement des pensions alimentaires. Elles joueraient ainsi un rôle d'intermédiaire. Emmanuel Macron veut ainsi lutter contre les impayés et aider un grand nombre de mères célibataires, souvent en situation de précarité. Que pensez-vous de l'efficacité de ce système? Il devrait être mis en place sans doute dans les prochains mois. Il existe déjà aujourd'hui un mécanisme public de recouvrement des impayés, l'ARIPA, Agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires, un organisme créé en 2017 à la fin du quinquennat de François Hollande, organisme peu connu et donc assez peu sollicité. Alors si vous êtes confronté à ce problème des impayés, si vous voulez en savoir plus sur ce qui devrait changer, appelez-nous, posez vos questions, témoignez, cette émission c'est la vôtre, 01 45 24 7000 et puis vos courriels sur le site de l'émission franceinter.fr. Pour vous répondre ce soir, Élodie Mulon, bonsoir. Vous êtes avocate spécialisée en droit de la famille. Hélène Périvier, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes économiste à l'OFCE Sciences Po, l'OFCE Observatoire français des conjonctures économiques et spécialiste des politiques familiales. Daniel Lenoir, bonsoir.
Bonsoir.
Ancien directeur de la Caisse d'allocation familiale, auteur d'une note toute récente pour le think tank Terra Nova au sujet du système de recouvrement des pensions alimentaires. On va aller au standard tout de suite.
Pierre Veil, le téléphone sonne.
Amal est avec nous à Aix-en-Provence. Bonsoir Amal. Vous êtes là. Est-ce que vous êtes en ligne
pour Oui, nous... bonsoir Pierre Veil, bonsoir à toute l'équipe.
Vous êtes bien, la table. Bienvenue sur l'antenne et on écoute votre question.
Eh bien écoutez, moi j'ai deux interrogations. La première, c'est au sujet de cette nouvelle mesure que M. Macron a mise en avant il y a quelques jours pour le recouvrement. Je ne comprends pas ce qu'il y a de nouveau, puisque cette mesure existe déjà, à savoir que la CAF propose de recouvrer les sommes pour les parents débiteurs qui ne payent pas les créances alimentaires. Donc, qu'y a-t-il de nouveau dans cette proposition que M. Macron nous fait? Et la deuxième question, qui vient dans le même sens, c'est ne pourrions-nous pas réfléchir à raccourcir les délais de recouvrement de pension sur la voie pénale, c'est-à-dire dans le code pénal, il y a une obligation de payer. Comment pourrions-nous faire pour que ces délais soient raccourcis, car ils sont aujourd'hui de l'ordre de 2 à 3 ans pour que le parent soit condamné quand il a fait opposition?
On va vous répondre, Amal. Première question, qu'y a-t-il de nouveau dans ces propositions, dans ce projet présenté par Emmanuel Macron, Daniel Lenoir?
Alors, je ne peux pas vous répondre sur cette question. Ce que je peux vous dire, c'est que effectivement, il y a un dispositif qui a été mis en place par la CNAF. D'ailleurs, c'est moi qui l'ai mis en place, qui est l'Agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires. Et ce que je peux vous dire, c'est ce que nous avons proposé avec Terra Nova. C'est pas de remettre en cause ce dispositif, mais c'est de faire en sorte que ce dispositif fonctionne de façon automatique. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui...
Il est peu connu et donc assez peu sollicité. Pourquoi il est peu connu?
Peu importe qu'il soit peu connu ou pas, c'est surtout qu'il faut le solliciter pour pouvoir recouvrer la pension alimentaire quand elle n'est pas payée. Or, on sait que c'est une démarche qui est toujours difficile, c'est-à-dire comme le recours à la procédure pénale. Et la proposition que nous avons faite, qui est une proposition d'amélioration du système, c'est que la pension alimentaire, c'est ce qui a été mis en place au Québec, hein, c'est que la pension alimentaire soit payée directement à une agence qui la reverse immédiatement vers le parent qui a la garde de l'enfant. Je rappelle au passage que la pension alimentaire, c'est pour l'enfant. C'est payé par le parent pour l'enfant. C'est une obligation, effectivement. Quand elle n'est pas payée, c'est un délit pénal qui est lourd, puisque c'est un délit d'abandon de famille. Mais donc, la pension alimentaire est versée à l'agence qui le reverse immédiatement au parent qui a la garde de l'enfant. Et en cas de, avant qu'il y ait même un défaut de paiement, en cas de retard de paiement, immédiatement, l'agence peut indiquer à celui qui doit la pension alimentaire qu'il est en retard de paiement. Et puis, dès que ce retard de paiement devient un impayé, il peut mettre en œuvre les procédures de recouvrement qui ont été développées par l'agence de recouvrement des impayés de pension alimentaire, qui sont des procédures de recouvrement très efficaces. Et le résultat, je pourrais y revenir si vous voulez, qui sont très efficaces. Le résultat, c'est qu'aujourd'hui, au Québec, il y a 3% seulement de pensions alimentaires qui sont impayées contre quelque chose qui est de l'ordre du tiers en France.
Mais Un complément, on nous écrit sur le site de l'émission, est-ce que le projet d'Emmanuel Macron signifie qu'à partir du moment désormais où une pension n'est pas payée, elle sera payée immédiatement par la caisse d'allocation familiale ?
Je ne peux pas vous répondre sur ce sujet. Le projet est à l'étude. Enfin, la secrétaire d'État, la ministre Chantal Dubos s'est exprimée sur ce sujet, je ne sais pas.
Hélène Périvier, économiste à l'OFCE, Sciences Po, Observatoire français des conjonctures économiques.
Oui, bah peut-être pour dire que c'est encore très flou, mais il existe des dispositifs, notamment de recouvrement, mais aussi de garantie d'impayés de pension alimentaire qui ont été mis en place dans le cadre de la loi sur l'égalité réelle de 2014 portée par Najat Vallaud-Belkacem. Ce dispositif, il est très important parce qu'il garantit un niveau de minimal de pension quand elles ne sont pas payées. Donc, il y a déjà
c'est
tout
quoi,
un ensemble.
Ce niveau
c'est 115 euros par enfant par mois. Lorsqu'il y a une pension, même si elle est payée, de 50 euros, alors ça c'est dans le cadre de l'allocation de soutien familial, mais on va compléter pour que, à minima, il y ait au moins 115 euros par enfant et par mois. Donc il y a déjà des dispositifs très importants qui existent, peut-être faut-il les mobiliser davantage, peut-être faut-il rendre la procédure de recouvrement plus efficace, mais je vois pas très bien ce qu'il pourrait y avoir de vraiment nouveau. Peut-être qu'il faut étendre davantage ce qui existe, mais ces dispositifs existent déjà.
Autre question posée par Amal sur France Inter, et je m'adresse à vous, Élodie Mulon, avocate spécialiste en droit de la famille. Elle évoquait, Amal, des procédures judiciaires, porter plainte. Est-ce que ce serait pas finalement plus efficace, porter plainte et obtenir une condamnation?
Sans doute que sur le plan de la pression, c'est plus efficace. Il évoquait des délais très longs et comment raccourcir ces délais. En réalité, le premier délai qui est un délai impératif, c'est celui des 2 mois d'impayés pour pouvoir et puis d'avoir vraiment tout tenté sur le plan civil, c'est-à-dire des saisies, pour pouvoir actionner une plainte. Après, les délais, ils tiennent en réalité d'abord à une procédure qui peut être soit par la voie de la citation directe, soit par le procureur qui va lui-même saisir quand la personne a porté plainte. Et ensuite, on est sur le fonctionnement de la justice. C'est-à-dire que les procédures, elles ne sont pas longues en raison des délais de la procédure, mais elles sont longues parce que c'est long en France. Les juridictions sont très encombrées.
Et on nous demande sur le site, quelles sont les peines encourues pour non-versement de pension alimentaire?
Alors, théoriquement, une peine de prison. J'ai plus le qui va jusqu'à 2 ans, quoi. J'ai plus le mais qui est rarement appliqué, puisqu'en règle générale, quand le juge est amené à prendre sa décision, il fait soit une remise de peine s'il voit vraiment que la personne a fait tous les efforts et ne pouvait pas le faire, soit il redemande à la personne de payer dans un délai et il reconvoque. C'est très rare qu'on aille jusqu'à la prison. Il peut y avoir une peine de prison avec sursis et des amendes.
Jean-Marc nous a appelé, il est avec nous au téléphone. Bonsoir Jean-Marc.
Oui, bonsoir à vous tous. Écoutez, moi je vais faire très court. J'expliquais donc à l'antenne que quelqu'un qui doit une somme certaine, voire une certaine somme aux impôts, et depuis des années, eh bien il y a une ponction sur salaire tous les mois, et je pense qu'on pourrait, au lieu de tourner autour du pot, d'attendre des mois et des semaines, et voire plus, pour que les personnes, les pauvres femmes qui se retrouvent seules, indemnisé, c'est pas vraiment le terme, mais que l'ex-mari, ex-conjoint puisse honorer les pensions alimentaires et simplement, si la personne travaille, eh bien, ponction sur salaire tous les mois. Voilà. C'est tout ce que j'ai à vous dire.
Mais on va répondre à cette remarque, Jean-Marc Élodie Mulon. C'est vrai qu'on a beaucoup de courriels, on nous dit mais le fisc sait parfaitement faire lorsqu'il veut récupérer de l'argent qui est dû.
Non mais en fait le problème il se pose quand il n'y a pas de salaire ou quand il n'y a pas de revenu. C'est là la vraie difficulté parce que quand il y a un salaire, on fait une saisie attribution sur le salaire effectivement. Donc on peut demander non seulement la somme qui est due mais sur un arriéré des 6 mois qui précèdent. Donc on peut tout à fait demander une saisie attribution sur les salaires en cas de pension impayée. Donc on peut faire comme le fisc en fait, c'est la bonne nouvelle.
Daniel Lenoir.
Oui, la réforme dont on parlait tout à l'heure a mis en place des procédures de recouvrement forcées qui sont extrêmement efficaces, qui sont les mêmes que celles du fisc, puisque l'agence peut recouvrer soit directement sur le compte, ce que dit la personne, soit même directement, comme vient de dire Élodie Mulon, soit directement sur le salaire auprès de l'employeur. Et c'est assez dissuasif d'ailleurs, parce qu'en général, les parents, bon, c'est plus souvent le père que la mère, hélas, les parents débiteurs et indélicats, ils n'aiment pas trop que leur employeur soit au courant du fait qu'ils ne payent pas leur pension alimentaire. Mais effectivement, le souci, c'est plus pour ceux qui sont insolvables, soit même ont organisé leur insolvabilité. Ça, c'est un vrai problème.
Virginie, bonsoir Virginie. Virginie est-elle avec nous au téléphone, au standard? Non, ça ne fonctionne pas. Là, elle n'est plus en ligne. Je résume des courriels qu'on a reçus sur le site de l'émission. On nous demande est-ce qu'il y a des motifs qui permettent de comprendre qu'un conjoint ne verse pas une pension et ces motifs font que le versement n'est pas obligatoire et qu'on peut attendre et qu'il peut y avoir des délais. Élodie Mulon.
Alors, les motifs tiennent. Soit on ne peut pas payer, puisque la décision, en fait, a fixé une somme qui est trop importante pour la personne qui doit payer. Ça arrive. Bon.
Et on fait appel. La décision est mise en fonction des revenus. Non, on ne tient pas compte des revenus de chaque conjoint.
C'est plus compliqué, parce que ça peut être aussi sur une apparence de revenus et pas sur les revenus réels. Et dans ce cas-là, on fait appel de la décision, sauf que c'est exécutoire. Et tout le temps de l'appel, la pension est due. L'un des motifs aussi que l'on trouve, pas si couramment que ça, mais quand même, c'est, on imagine, le père doit une pension à la mère qui ne remet pas les enfants. Et là, le père s'estime légitime, du coup, à ne pas payer la pension, alors que ce sont deux choses complètement différentes. Et cette excuse-là n'est pas du tout admise par les juges, et notamment en correctionnel par le juge pénal.
Hélène Périvier ?
Oui, peut-être juste pour dire que effectivement, les barèmes, le juge dispose de barèmes indicatifs. Il peut fixer autre chose, mais il y a des barèmes indicatifs qui donnent à peu près en fonction à la fois du niveau de revenu du père du parent débiteur et aussi des situations un peu spécifiques relatives à l'enfant qui peuvent être utilisées. Le problème, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est soit lorsque le père n'est pas en capacité ou plus en capacité de payer ce qui a été fixé, ça peut toujours être revu, mais effectivement il y a des délais pour que ce soit revu. Et là, j'aimerais vraiment insister sur le fait qu'il y a déjà des dispositifs sociaux pour aider ces impayés de pension alimentaire ou ces difficultés qu'il peut y avoir à payer, notamment ce dont on parlait, la garantie de pension alimentaire impayée. Ou lorsque la pension est fixée à un niveau trop faible pour aider la mère isolée qui a la charge des enfants, il y a l'allocation de soutien familial qui garantit un niveau de pension. Donc il y a quand même des dispositifs sociaux qui viennent. Maintenant, il faut pouvoir les activer pour que ça vienne effectivement en aide aux mères isolées.
Élodie Mulon ?
Oui, alors juste un bémol qui quand même est de taille, c'est que les barèmes, c'est bien, ça donne une idée, sauf que les juges, on les utilise assez rarement pour voir fixer les pensions devant les juges parce qu'ils ont l'interdiction de le faire. La Cour de cassation a rappelé assez récemment, qu'en fait le barème n'était pas un fondement juridique et que le juge devait se fonder en droit. Donc le barème en fait n'est pas utilisé pour fixer les pensions aujourd'hui, même si c'est une aide à la décision.
C'est une aide à la décision.
Daniel Lenoir, je rappelle, ancien directeur de la Caisse d'assurance...
Caisse nationale d'assurance.
L'allocation familiale, oui. Et auteur d'une note pour le think tank Terra Nova au sujet du système de recouvrement des pensions alimentaires.
Oui, alors il y a plusieurs choses. D'abord, je voudrais dire que bien sûr, il y a des tas de raisons qu'on peut mais ça n'excuse pas. On a un taux d'impayé en France qui l'estimation, elle varie entre 20 et 40 en général, je dis c'est un tiers. On ne sait pas exactement le chiffre, mais quand on compare avec le Québec où il y a 3 seulement des impayés, on voit bien qu'il y a un vrai problème. Première chose. Deuxième chose, sur la question du barème. Non, d'abord, sur la question du montant. Il faut savoir que la moitié des pensions alimentaires sont inférieures à 150 euros. Donc, parce que justement, les capacités contributives du débiteur sont faibles, ou que le juge a estimé qu'elles étaient suffisamment faibles, 150 euros. Et donc, effectivement, et ça, je complète ce qu'a dit tout à l'heure Hélène Périvier, et je confirme, effectivement, la réforme de 2017 a généralisé quelque chose qui avait été expérimenté avant, qui était de pouvoir monter une pension alimentaire qui est inférieure à 115 euros jusqu'au montant de 115 euros. Donc, effectivement, c'était aussi un aspect extrêmement important. Et la proposition que nous avons faite avec Terra Nova rend ce système automatique parce qu'on a les mêmes problèmes de taux de recours sur ce droit, c'est-à-dire on est de l'ordre de 10 à 20%, que sur le droit au recouvrement. Et la troisième chose, c'est sur les barèmes. La même réforme a ouvert la possibilité que la pension alimentaire soit fixée d'un commun accord entre les deux parties, c'est-à-dire sans être obligé de passer devant le juge, c'était avoir une mesure de simplification, à condition, là, pour le coup, que ça respecte un barème minimum en fonction du revenu de celui qui doit la pension, donc le débiteur.
Alors, Élodie Mulon.
Juste une précision. L'accord qui doit respecter les barèmes, c'est pour que l'accord soit homologué par la CAF, qui va à ce moment-là rendre une décision exécutoire. Cette exigence de respect du barème n'est pas du tout...
opposable au juge.
Pas du tout valable pour les accords qui vont être soumis au juge. Enfin, ils peuvent l'utiliser. Et c'est vrai que c'est utilisé pour les revenus moyens. C'est vrai que ce barème est utilisé parce que c'est une aide à la décision. Dans le cadre de leur accord, ça leur donne une idée, mais ce n'est pas une obligation en tout cas.
Au standard, Agnès est avec nous. Bonsoir Agnès, bienvenue sur France Inter. Vous êtes à Igny, c'est cela ?
Voilà, c'est ça.
On écoute votre question ou votre témoignage ?
Alors moi, je témoigne en tiers, c'est-à-dire que ce n'est pas l'histoire, mais ce n'est pas arrivé personnellement. Mais je suis la compagne d'un homme depuis maintenant 16 ans, dont l'ex-compagne a disparu dans la nature avec sa fille. Et lui, il payait une pension alimentaire pour sa fille. Il a dû faire appel à la police pour la retrouver. Et quand il l'a finalement retrouvée, la CAF lui a réclamé 2 ans d'impayés avec les intérêts assortis, alors que c'est lui qui avait dû déplacer des montagnes pour retrouver sa compagne. Et ça, c'était en 2002. Donc, à l'époque, il existait déjà vraisemblablement un recours auprès de la CAF pour se faire verser une pension alimentaire quand on ne la touchait pas de son ex-conjoint.
Merci Agnès d'avoir sur ce témoignage d'Agnès qui veut réagir. Daniel Lenoir.
Je peux répondre, enfin je vais essayer de comprendre si c'était avant 2002, il existait ce qui existe toujours d'ailleurs, ce qui s'appelait l'allocation de soutien familial recouvrable qui était versée quand la pension alimentaire n'était pas versée. Elle existe toujours. Et donc c'est celle-là qui permettrait d'ailleurs à l'agence de verser la pension minimale. Hein. Donc ça c'est et effectivement la CAF a dû verser pendant les 2 ans cette allocation de soutien familial recouvrable et elle a dû engager les procédures de recouvrement auprès du débiteur, en l'espèce le père. Après, j'ajoute que dans la note que nous avons faite avec Terra Nova, on a aussi mis en évidence cette difficulté qui est le fait de non-présentation d'enfants, en fait, hein, qui est aussi un autre problème et qu'il ne faut pas sous-estimer pour autant. Ça ne justifie pas le non-paiement de la pension alimentaire, mais en tout état de cause, ça peut aussi être des manœuvres qui conduisent à casser le lien de parentalité entre le parent qui n'a pas la garde de l'enfant et son enfant. Et c'est pour ça qu'on a proposé la généralisation des cessions, de ce qui a été expérimenté au Québec aussi, d'aide à la coparentalité.
Des remarques sur le site de l'émission à propos de cette agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires qui existe depuis 2017, un organisme qui est assez peu connu. Les auditeurs nous demandent, mais n'a-t-on pas l'impression que souvent des femmes qui devraient recevoir une pension alimentaire n'osent pas contacter cette agence ? Il y a une sorte de retenue, on a comme honte de demander ce qui vous est dû. Élodie Mulon.
J'arrive pas à apprécier. Je comprends si vous voulez que ce soit difficile de faire la démarche. Je me demande si en fait l'absence de recours à ce système est due à de la timidité ou plutôt à une méconnaissance du système. Je pense qu'en fait le système est pas assez connu et qu'on devrait communiquer beaucoup plus dessus.
Hélène Périvier.
Oui, je pense qu'il y a quelque chose qui est peut-être pas très visible, mais en fait, quand on regarde la façon dont sont traitées les pensions alimentaires dans le système social et fiscal, notamment du point de vue des prestations sociales, en fait, il y a une situation qui peut être un peu absurde, mais si on accroît le recouvrement des pensions, ça peut conduire à baisser le revenu disponible des mères isolées. Je m'explique. En fait, 1 euro de pension alimentaire versée va être traité dans le cadre du RSA ou de la prime d'activité comme 1 euro en moins de perçu. Plus dans les allocations logement, ça va être déduit, plus les tarifications sur la cantine, le périscolaire, in fine, alors que c'est pas le cas de l'allocation de soutien familial qui elle est traitée différemment. Donc in fine, on peut se retrouver dans cette situation absolument absurde dans laquelle, lorsque la pension est mieux recouvrée et mieux payée, le revenu disponible de la mère isolée, donc le niveau de vie des enfants, diminue. Donc je pense que dans cette question du recouvrement des pensions alimentaires, non seulement il est très important, évidemment, de faire en sorte que le parent débiteur, en l'occurrence le père, paye effectivement sa pension, mais je me permets de dire qu'il va falloir mettre en cohérence le système social pour que ça ne conduise pas à une baisse du revenu disponible des mères isolées, ce qui veut dire qu'il va falloir qu'on traite différemment ce type de revenu dans les conditions de ressources des prestations sociales.
Sur le site de l'émission, Annabelle nous pose cette question. Y aura-t-il des changements dans les projets d'Emmanuel Macron, des changements dans la procédure si on veut réviser le montant de la pension alimentaire? Qui veut répondre? Élodie Mulon, avocate.
Il n'y a absolument aucun changement de procédure. Il a failli en avoir un avec la loi justice là qui vient d'être. Puis finalement, cette possibilité a été retoquée par le Conseil constitutionnel, qui était la possibilité pour les directeurs de CAF de modifier les pensions dans certaines, selon certaines conditions. Donc finalement, ça ne va pas se faire. Donc pour modifier sa pension aujourd'hui, il faudra toujours saisir un juge.
Guylaine, vous êtes au standard, vous écoutez l'émission et vous souhaitez y participer. Eh bien, c'est le moment, Guylaine. Vous êtes à Paris.
Bonsoir. Moi, je trouve que c'est un peu une usine à gaz pour ces pensions alimentaires. Il faudrait que ce soit le fisc directement qui reçoive du juge le pourcentage de pension que doit payer le débiteur par rapport à son revenu. Et le fisc va donc prélever sur le compte du débiteur et créditer le compte du bénéficiaire. Oui. Et l'avantage, c'est que si le débiteur est au chômage ou en maladie, automatiquement sa pension baisse. Et si, au contraire, il a une promotion, ou etc., bien, sa pension augmente automatiquement. Il n'y a plus rien à faire, plus aucun recours à passer devant le juge et tout le bazar. Et en plus, ça apaise un peu les relations entre les parents et notamment pour les enfants, quoi. Il n'y a plus de conflits au niveau de l'argent et de la pension. Et un autre avantage très important, c'est que on a totalement oublié les pensions alimentaires dues aux parents, ceux qui sont en EHPAD. Et donc là, par exemple, il y a des gens qui ont de l'argent, beaucoup d'argent, oui. Qu'on ne peut plus les joindre parce qu'ils ont déménagé, ils n'ont pas donné leur adresse, et on ne peut plus rien faire, c'est impossible. Hein. Et moi, j'ai un frère, par exemple, qui a payé zéro alimentaire, et le reste était réparti entre nous autres.
Merci Guylaine d'avoir appelé Daniel Lenoir. Alors, tous ces sujets évoqués par Guylaine.
D'abord sur le dernier point, c'est la question de l'obligation alimentaire vis-à-vis de donc des ascendants. Donc c'est une question un peu différente de celle qu'on aborde aujourd'hui. Donc je veux pas en parler. C'est un vrai sujet, hein, mais c'est un autre sujet. Pour revenir sur la question du fisc, ce qu'il faut savoir, c'est que le système qu'on propose, enfin avec Terra Nova, est un système qui est celui qui a été mis en place au Québec par le fisc, c'est-à-dire Revenu Québec, en fait, c'est les impôts.
Ça revient régulièrement sur le site, les auditeurs, fisc, ce serait parfait.
Oui, mais ça change rien. C'est-à-dire que ça soit le fisc ou que ça soit la CAF, ça revient au même. Je vais vous dire pourquoi il y a un petit avantage à ce que ça soit la CAF en France. Mais l'important, c'est qu'il y ait, c'est ce que dit madame, c'est qu'il y ait un tiers entre celui qui verse et celui qui reçoit. En général, c'est celle qui reçoit, d'ailleurs. Mmh. Et je rappelle que c'est pour l'enfant. Hein. Et cette importance-là, c'est justement d'avoir un système qui soit automatique. Alors, quel est l'avantage de confier ça à la CAF? C'est ce qu'a dit, d'ailleurs, le président de la République. Il y a deux raisons. La première, c'est que les CAF, j'en sais quelque chose, ont mis en place un dispositif pour faire ça. Donc, il suffit de le modifier, mais très légèrement, pour faire ça. Et le deuxième avantage, c'est ce que disait Hélène Périvier, c'est que ça permet aussi de bénéficier, pour les pensions alimentaires qui sont inférieures au minimum, ça permet de bénéficier de façon automatique de ce montant minimum. C'est le seul avantage. Mais que ça soit le fisc ou la CAF, de toute façon, les CAF aujourd'hui ont les mêmes moyens de recouvrement que le fisc.
C'était Daniel Lenoir, ancien directeur de la Caisse d'allocation familiale. Élodie Mulon, vous vouliez ajouter un mot?
Oui, en fait, il y avait deux choses quand même dans le propos. Oui. Il y avait à la fois recouvrement par le fisc. Oui, enfin, pourquoi pas. Même si c'est toujours un peu, mais bon, pourquoi pas. Mais après, il y avait.
Pourquoi êtes-vous espèces... dubitative?
Non, bon, je sais pas.
Bon.
Je trouve que la CAF, c'est bien aussi. Et voilà. Mais l'autre sujet, c'était une espèce de révision automatique en fonction de la baisse ou de l'augmentation des revenus du débiteur. Alors, d'abord, je fais observer, c'est que la pension, elle n'est pas calculée uniquement sur le revenu, mais il y a d'autres éléments qui rentrent en ligne de compte, et notamment les propres revenus du créancier. Donc, en fait, c'est une appréciation générale d'une situation. Il peut y avoir la naissance d'un autre enfant. Enfin, il y a plein de choses qui se passent, qui fait que, pour le coup, considérer que le Trésor public pourrait augmenter ou réduire les pensions en fonction de la situation du débiteur, et me paraît quand même assez un raccourci un peu fulgurant.
Hélène Périvier.
Oui, mais je crois que c'est pas le métier du fisc de faire ça. La CAF est l'institution la plus désignée. Par ailleurs, comme elle gère d'autres prestations familiales, ça permet d'être plus en cohérence. Par ailleurs, la CAF a une parfaite connaissance des revenus des gens, puisque le fisc, lui, communique ses revenus pour calculer les prestations sous conditions de ressources.
Régine est en région parisienne. Bonsoir, Régine.
Bonsoir.
On vous écoute.
Eh bien, moi, j'interviens moi aussi en tant que tiers. Donc, j'ai une amie qui, depuis 2 ans, ne perçoit pas la pension alimentaire du papa de sa fille. Depuis 2 ans, elle porte plainte tous les mois au commissariat. Dans un premier temps, le papa a été arrêté, il a été placé en garde à vue, 24 heures, condamné une première fois à payer. Il ne s'est pas présenté au deuxième jugement puisqu'il n'a toujours pas payé. Donc le jugement est intervenu encore 6 mois plus tard. Aujourd'hui, il est condamné à payer sous peine d'incarcération. Il ne paye pas. Mmh. Le juge d'application des peines a été contacté par mon ami, qui lui dit que l'affaire suit son cours, mais elle ne perçoit toujours rien. Alors la CAF lui verse 100 euros par mois, mais le papa ne paye rien depuis 2 ans et elle n'a plus aucun recours.
Merci d'avoir témoigné, Régine et Elodie Mulon, sur cette affaire.
En fait, la difficulté, elle est claire, c'est que le recours au délit d'abandon de famille permet de sanctionner le débiteur pénalement, mais ça le contraint pas à payer. C'est-à-dire, on te dit, si tu payes pas, tu iras en prison, pour faire un raccourci. Mais en fait, d'abord, il va en prison ou il y va pas, encore faut-il le trouver, mais ça l'oblige pas à payer.
Mmh. Mais si je prends cet exemple dans le nouveau système souhaité par Emmanuel Macron, dans ce cas précis, un homme qui ne paye pas les pensions alimentaires depuis très très longtemps, ça veut dire que la caisse d'allocation familiale va, elle, payer ce que cette femme doit recevoir, et après, la caisse d'allocation familiale va se débrouiller avec celui qui ne veut pas payer pour récupérer l'argent. Parce que ce qui compte, c'est que cette femme reçoive cette pension alimentaire.
Dans la situation actuelle, sous réserve qu'elle recourt à la RIPA, hein, on est toujours dans cette situation-là, elle aura, c'est le cas d'ailleurs, elle touche les 115 euros qui correspondent à l'ASF, c'est-à-dire au minimum de pension alimentaire.
Et peut-être que la pension alimentaire due est bien plus élevée. Et
non, bien sûr.
Et alors, c'est là que la CAF peut intervenir.
La question, enfin, je redis, je peux parler de la proposition que nous avons faite, pas ce que le gouvernement en tirera, je sais qu'il a été intéressé, le gouvernement l'a dit par notre proposition, mais dans le système qu'on préconise, de toute façon, il y aura un effet de prévention, parce que dès qu'il y a un retard de paiement, c'est très important, parce qu'un impayé, ça commence par un retard de paiement.
Bien sûr.
Qui peut être un défaut de paiement partiel, etc. Et puis on s'habitue, et puis au fur et à mesure, les impayés s'accumulent. Et plus un impayé est important, plus il est difficile à recouvrer. Donc le fait d'avoir, dès qu'il y a un retard de paiement, il y a un signalement du fait qu'il y a, et au bout de 2 mois, c'est-à-dire le délai d'impayé de pension alimentaire, il peut y avoir recouvrement forcé, soit sur le compte du débiteur, soit, je le redis, sur son salaire. C'est redoutablement efficace.
Mmh. Sur ce point, Hélène Périvier.
Juste pour préciser que, heureusement pour l'ami de Régine, la garantie d'impayé de pension alimentaire était mise en place, parce que en 2014 expérimentée et généralisée, parce que sans cette garantie de pension alimentaire, elle n'aurait pas touché d'allocation de la part de la CAF. Donc là, au moins, elle a cette garantie-là. Si jamais la caisse d'allocation familiale réussit à recouvrer les pensions dues, alors elle touchera le solde de ce qui lui est dû et la CAF se remboursera de ce qu'elle lui a versé. Mais quand même, c'est déjà un élément très important à souligner. Il y a eu des améliorations assez substantielles qui ont été faites ces quelques dernières années.
Beaucoup d'appels au standard. Emmanuel est avec nous. Bonsoir, Emmanuel.
Oui, bonsoir.
C'est à vous maintenant, en direct sur Inter.
Bon, je sors un tout petit peu du sujet, moi, mais je pense que ce que je veux dire concerne un certain nombre de personnes. J'entends, depuis que j'écoute votre émission, depuis 20 minutes, que des notions de père débiteur, de madame et monsieur doit et madame ne perçoit pas. Moi, je suis père, je sais pas si on... D'ailleurs, est-ce qu'on parle de père isolé? J'en sais rien. Mais je suis père qui a la garde intégrale de mes enfants. Qui a du mal à recouvrer les pensions de leur mère. Et moi, à chaque fois que j'entends vos propos, le père débiteur, et je me reconnais pas du tout. Donc j'aimerais, par respect pour les pères qui ont la charge des enfants, qui les assument et qui n'arrivent pas à recouvrer les pensions également, je préférerais entendre le terme, par exemple, de parents débiteurs que systématiquement de pères débiteurs. Parce qu'il y a, je pense, pas mal de pères en France qui sont dans la situation de ne pas avoir la pension versée par la mère. Et du coup, ça m'amène à une question. Quelle est cette proportion? Est-ce qu'on la connaît? Pour rétablir un peu les, avec des chiffres avérés, une sorte d'équilibre, en fait, dans les propos.
Emmanuel, c'est formidable d'avoir appelé, d'avoir témoigné et d'avoir rappelé cette réalité. On va vous répondre, Daniel Lenoir, les chiffres.
Alors, les chiffres de mémoire, et c'est une approximation, c'est en gros 85% des créanciers sont des créancières.
Ouais.
C'est-à-dire que donc les pères débiteurs, c'est 15%.
Le cas d'Emmanuel donc, est moins fréquent.
Il est moins fréquent.
Mais ça existe.
Je crois avoir systématiquement dit, la plupart du temps, la mère, et pas systématiquement la mère. Parce que justement, effectivement, c'est un sujet. Alors, ce qui est ainsi, je peux permettre de compléter, c'est que, en revanche, du côté de ceux qui recourent à la RIPA, il y a moins de pères, aujourd'hui, que de mères. Mmh. Ce qui laisse à penser qu'il y a moins de problèmes d'impayés pour, d'un côté que de l'autre.
Est-ce qu'Emmanuel est toujours en ligne avec nous, Emmanuel? Non, il n'est plus là. Bon, Hélène Périvier, vous vouliez
compléter
ce qu'il nous a dit.
Oui, Emmanuel. De façon générale, c'est vrai que les pères isolés existent, mais c'est 15% des foyers monoparentaux, donc c'est pas négligeable, mais c'est quand même, la plus grande majorité sont des femmes. On essaye toujours de faire attention à dire parents débiteurs ou parents isolés. Simplement, quand on dit ça aussi, on masque la réalité qui est quand même que, in fine, dans 85% des cas, ce sont les femmes qui ont la charge des enfants et que c'est le choix qui a été fait par le couple. C'est-à-dire que c'est pas le juge qui dit c'est la mère qui gardera les enfants, mais souvent le couple arrive avec cette idée que la mère aura la garde des enfants. Donc, une fois qu'on a dit ça, on peut dire parents isolés, mais quand même, la réalité sociale de ce phénomène, c'est que ce sont les mères qui sont le plus souvent en charge des enfants et qui sont le plus souvent des mères isolées.
Un mail de Denis nous écrit « Un huissier est tout à fait compétent pour faire exécuter sans délai une décision d'un juge des affaires familiales. Pourquoi se tourner vers les caisses d'allocations familiales ?» Élodie Mulon.
Mais de toute façon, mais l'huissier est clairement compétent pour le faire et les caisses d'allocation familiale interviennent quand la personne préfère, en tout cas, est dans un registre de pension qui rend plus confortable le fait de demander à la CAF parce que justement, il va pouvoir percevoir notamment l'aide au soutien familial, ce qu'il n'aura pas si jamais il a recours directement à un huissier. Donc, c'est un autre système, mais vous pouvez tout à fait, et un certain nombre de, enfin, il y a beaucoup de gens qui le font, appellent un huissier, demandent effectivement à ce que la pension soit recouvrée par le voie d'une saisie attribution ou une saisie immeuble même parfois, ou même une saisie immobilière, mais enfin là c'est des grosses pensions. Non mais il n'y a aucun sujet là-dessus, mais c'est un système différent.
Céline, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Allez-y, vous êtes en direct avec nous et nos invités vous écoutent.
Alors, je vais pas faire court parce que comme l'autre auditeur, Jean-Marc, j'ai plusieurs choses. Déjà, je vais rebondir à chaud. Madame Péruvier, merci pour ces petits points au sujet des 85%. J'ai moi-même été assignée en justice pour finalement être en famille monoparentale et qu'il ait un week-end sur deux. En tout cas, qu'il ait le droit de l'avoir, mais pas le devoir. Donc ça, c'est encore un autre problème. Oui. Autre chose aussi, sur la CAF, on dit oui, c'est la CAF, c'est bien aussi. Mais je ne sais pas qui a dit ça. Mais je pense que cette dame va pas à la CAF. Pour moi-même, j'y vais depuis assez peu de temps et je peux vous dire, la CAF, c'est pas toujours bien. Déjà, quand on l'appelle, c'est payant. Quand on y va, c'est l'enfer. Alors après, je suis à Paris, hein. Ça dépend des quartiers et tout ça. Donc, ouais, non, c'est pas chouette. Peut-être que par la fiscalité, ça peut être différent et tout ça, c'est compliqué. Il y a des erreurs de paiement, il y a des traitements à 6 mois pour que ça soit, etc. Donc, c'est chouette, mais dans une certaine manière. C'est une première chose. Je ne sais pas si c'est Madame Péruvier qui a parlé de la CAF en disant ce problème qui me semble mais considérable sur cette indexation du quotient familial et du RSA sur le montant de cette contribution à l'éducation et à l'entretien. Parce que je tiens à préciser que ce n'est pas une pension alimentaire, je ne suis pas invalide ou quoi, c'est une contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant. Donc pension alimentaire, on est au 21e siècle. Excusez-moi, je vais continuer parce que ça c'est des petits points, c'est des mots.
Mais Céline, on voudrait répondre à ce que vous nous dites sur l'antenne.
C'est un témoignage, vous demandez, c'est des informations. Donc c'est une première chose, en effet c'est important, c'est-à-dire qu'on considère cette contribution à l'éducation de l'enfant comme un revenu. Mes revenus sont neutralisés si je travaille, si j'ai la chance de travailler. Par contre, cette contribution, je vais avoir un coefficient fort et comme disait cette dame, madame, alors je pense que c'est madame Perrier-Rubier qui disait ça, ma cantine va être plus chère, etc. Et le reste, mon quotient familial et mon RSA va être impacté.
Voilà, on s'en tient là, c'est parce qu'il nous reste 4 minutes. Céline, il y a encore beaucoup de courriels qui sont arrivés sur le site de l'émission sur ce que vient de dire Céline Hélène Périvier.
Oui, je pense qu'il y a un vrai problème du traitement des contributions pour l'entretien de l'enfant dans le système social qui doit être absolument et impérativement soulevé au moment où on va accentuer le recouvrement des pensions alimentaires parce qu'effectivement, ces femmes expérimentent une baisse de revenus et ça, c'est absolument anormal. Donc, il va falloir revoir ça.
Céline évoquait aussi un fonctionnement pas formidable des caisses d'allocation familiale lorsqu'on les contacte, Daniel Lenoir.
Alors, bon, pas très bien placé pour répondre à cette question maintenant, mais ce que je peux vous dire...
Vous êtes ancien directeur.
Oui, ancien directeur, mais bon.
Alors, vous connaissez un peu l'administration.
Un petit peu. Oui. Mais ce que je peux dire, c'est qu'on a fait, ces efforts se poursuivent, on a fait beaucoup d'efforts pour justement améliorer les accueils dans les CAF, et aussi pour que ces procédures puissent se faire le plus possible, de façon, en utilisant les outils numériques, mais de façon simple. Et notamment, on peut saisir la RIPA par le numérique, voire par le téléphone, il y a une plateforme téléphonique. Je crois qu'il y a un point important, effectivement, on parle tous de pension alimentaire parce que c'est commode, mais elle a raison, le terme exact, c'est pas celui-là. C'est quoi, d'ailleurs, la preuve, c'est que je ne m'en souviens plus exactement, c'est contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant. Et effectivement, on ferait mieux de donner ce terme-là, je l'ai dit à plusieurs reprises, la pension, ce qu'on appelle la pension alimentaire, c'est pour l'enfant.
Christian nous a écrit « Quid d'une pension alimentaire impayée depuis des années par un père qui est à l'étranger ? Que peut-on faire ?» Élodie Mulon, avocate spécialisée dans les questions en droit de la famille.
D'abord, il y a une prescription. Oui. D'accord ? C'est-à-dire qu'on ne peut pas recouvrer plus de 5 ans. Alors après, le père qui soit à l'étranger, il faut... Alors, il y a certains pays où il y a des conventions d'entraide. Clairement, souvent, c'est compliqué. Déjà, c'est compliqué en France. Alors, vous imaginez bien, quand les gens sont à l'étranger, c'est vraiment très compliqué. L'action pénale est pas mal parce que, du coup, ça met la pression sur la personne en lui disant, si tu reviens en France, tu auras intérêt à payer parce que tu es condamné. Voilà.
Franck, à Saint-Rémy-de-Provence. Bonsoir Franck, ce sera certainement le dernier appel parce qu'il est déjà 19h58, le temps a passé très vite. Allez-y Franck.
Je vais être bref. Donc j'exerce comme enquêteur social auprès des juges aux affaires familiales depuis 25 ans. Je rencontre régulièrement des parents qui ne règlent pas la contribution aux charges d'éducation et d'entretien destinées aux enfants, ce qu'on appelle communément pension alimentaire. Ça n'est pas toujours parce que le parent n'a pas les moyens, mais parfois parce que le parent qui en charge les enfants au quotidien s'oppose à ce que le parent qui bénéficie d'un droit de visite ou d'un droit de visite et d'hébergement reçoive les enfants, les rencontre. Donc par mesure de rétorsion, le parent donc qui doit régler une contribution et qui en a les moyens ne le fait pas en disant « puisque je ne vois pas mes enfants, il n'y a aucune raison » que je remette ma contribution aux parents gardiens, entre guillemets. Moi, j'explique aux parents que néanmoins, l'enfant, s'il ne le voit pas, c'est bien entendu regrettable alors qu'il y a une décision de justice, mais que néanmoins, cet enfant vit, mange, a un toit, a des besoins, et la question est là. Alors, ce parent ne règle pas sa contribution. J'ai quand même rencontré deux pères qui ont été condamnés l'un à 15 jours d'incarcération et l'autre à 3 semaines, étant précisé que quand ses parents, en l'occurrence c'était des pères, ont été remis en liberté, ils n'ont pas repris le règlement de la contribution aux charges d'éducation et d'entretien des enfants.
Merci Franck, ce témoignage de Franck et Élodie Mulon.
Oui, j'en ai parlé tout à l'heure. C'est vrai que c'est un vrai sujet. Pour la non-représentation d'enfants, il y a aussi une action pénale qui est possible. Ce qui est clair, c'est qu'on doit être aussi sévère avec les mères qui ne remettent pas les enfants qu'avec les pères qui ne payent pas les pensions, mais l'un n'est pas la contrepartie de l'autre. Voilà.
C'était le téléphone sonne. Merci à nos invités, Daniel Lenoir, Élodie Mulon et Hélène Périvier. Vous écoutez France Inter, il est 20h.